Commençons notre chemin ensemble. Qu'est-ce que c'est que le carême ? Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Nous savons que le Christ est ressuscité il y a plus de 2000 ans. Donc nous n'allons pas faire semblant comme si le Christ vit de nouveau sa passion. Et donc on va attendre, est-ce qu'il va ressusciter ? Non, il est ressuscité. Et donc c'est ce mystère, cette lumière de la résurrection qui nous accompagne à travers ce temps de 40 jours que nous appelons le carême. Carême en latin, ça se dit quadragésima. C'est de ça que ça vient carême, le mot carême. Le nombre 40, il est très important dans la Bible. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, la résurrection du Christ éclaire notre chemin du carême. L'éclaire de la même manière que le Christ a éclairé ses apôtres les plus intimes. Vous savez qu'il y a 3 des 12 apôtres qui ont été présents au moment les plus importants de la vie de Jésus. C'est Pierre, Saint-Pierre, Saint-Jean et Saint-Jacques. Et donc, un moment très important de la vie de Jésus, juste avant la résurrection, c'est-à-dire, plus exactement, juste avant le moment de la Passion, où le Christ allait être rejeté par les grands prêtres, allait vivre sa passion, être pendu au bois de la croix et mourir pour ressusciter ensuite, eh bien, c'est le moment de la transfiguration de Jésus sur le monde Tabor. Alors, ce moment a été un moment charismatique où pour quelques instants, Jésus a laissé transparaître à travers son humanité la gloire de Dieu. Il était en vérité le Fils de Dieu. Mais les gens qui étaient autour de lui ne le voyaient pas. D'ailleurs, dans l'Évangile, à plusieurs reprises, ils le disent. Nous le connaissons, il est bien le fils de Joseph et de Marie, il est né, il a vécu à Nazareth, il a des cousins qui sont au milieu de nous, il est un homme comme nous. Alors que Jésus, oui, en vérité, il était homme, mais il était aussi le fils de Dieu, le fils bien-aimé de Dieu. Et donc à la transfiguration, pour quelques instants, Jésus va faire éclater la gloire de Dieu pour ces 3 apôtres qu'il a choisis, qu'il aimait d'une manière toute particulière. Ils étaient vraiment ses amis intimes. Pour renforcer leur cœur, pour leur donner une lumière, afin qu'ils puissent vivre le moment de la passion du Christ sans le trahir, sans s'enfuir, mais en faisant le chemin jusqu'au bout avec lui. Nous connaissons la suite des 3. Il n'y en a que le petit Saint-Jean, le plus jeune, qui est resté fidèle, malgré lui, si j'ose dire. Alors, on va lire un petit peu ce passage de l'Évangile pour comprendre comment rentrer dans ce mystère du carême pour comprendre la signification de ce temps. Alors, j'ai choisi l'évangile de saint Marc, au chapitre 9. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Mes frères, soyez attentifs. Toutes les paroles de Jésus sont importantes. Il n'y en a pas une qui est en plus. Toutes les paroles de cet évangile vont éclairer notre vie actuellement. Et il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'il avait vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Alors, mes chers frères et sœurs, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Nous percevons dans cette exclamation de Pierre une joie ineffable. Le cœur de Pierre est effectivement dans la joie. Il a suivi Jésus sur une autre montagne en faisant des sacrifices. Il aimait le Christ, comme nous aussi. Et puis tout à coup, dans sa vie, il y a un événement qui se passe, un événement extraordinaire. La gloire de Dieu fait irruption dans sa vie. C'est le don de Dieu. Et il est rempli de joie. Il est bon que nous soyons ici. Pierre, tout à coup, fait l'expérience du sacré. Sa vie même, l'endroit où il est, le temps de sa vie devient sacré. Il comprend qu'il est fait pour demeurer dans cette présence de la gloire de Dieu, faisant trois tentes. Il est bon d'être là. Je veux être avec toi, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Alors, le temps du carême, c'est ce temps de la joie de la présence de Dieu. C'est un temps où nous allons être plus libres. Et c'est une grâce de Dieu, encore une fois. Ce n'est pas nos efforts d'abord. Comme Pierre, nous recevons gratuitement de la part de Dieu une révélation à un événement, une irruption de la toute-puissance de la bonté de Dieu dans notre vie, qui va faire naître dans notre cœur le désir de demeurer dans cette joie de la présence de Dieu. C'est, vous voyez, c'est l'action de Dieu, de Jésus, qui se révèle à ses disciples. Et donc, ses disciples vont pouvoir le rencontrer. Le temps du carême, c'est le temps de la rencontre de Dieu, où nous cherchons à travers tout, en commençant par notre désir. Peut-être que nous avons oublié de désirer rencontrer le Seigneur. Nous cherchons à rencontrer Dieu ressuscité, la gloire de Dieu. Nous cherchons à rentrer dans le temps de Dieu, dans l'action de Dieu, comme Pierre, et ainsi de découvrir que notre vie, elle est sacrée, que le temps de notre vie est sacré, que l'espace de notre vie est sacré. Tout le temps du carême va être éclairé par cette lumière de la transfiguration de Jésus. Vous allez voir que dimanche, c'est pas pour rien que j'ai choisi cet évangile pour aujourd'hui, dimanche qui vient, c'est justement le dimanche de la transfiguration, où l'Église va nous donner cet évangile. Alors, le temps du carême c'est un temps liturgique. Il y a le même lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que entre la liturgie et notre vie quotidienne. Je vais expliquer cela. Tout d'abord, je vous ai dit que nous faisons l'expérience pendant ce temps du carême de l'action de Dieu. Dieu se donne à moi, il déverse sur moi sa gloire. Il déverse sur moi sa lumière. Il rentre dans ma vie. Il veut rentrer dans ma vie. Alors vous voyez que Dieu qui est éternel veut rentrer dans notre temps qui est fini pour le transformer, pour lui donner un nouveau sens. Dieu ne va pas nous donner une nouvelle humanité. Il ne va pas faire de nous que nous soyons en bonne santé, mais tellement en bonne santé que nous n'allons jamais mourir. Il descend dans la limite de notre monde pour nous donner l'infinitude, l'éternité de son mystère. Et donc, c'est pour cela que chaque événement de Dieu dans notre monde est valable pour toute l'histoire. C'est ce que nous appelons dans la théologie, donc cette action de Dieu dans le temps, ce que nous appelons les événements de l'histoire du salut dans l'aujourd'hui, de la liturgie. La liturgie va se faire comme un miroir de ces événements que Dieu a fait à travers l'histoire de l'humanité. Dieu n'a pas créé Adam et Ève qu'il y a quelques milliards d'années. Dieu, il continue le même acte de création à chaque instant. Dieu n'a pas appelé Abraham juste il y a quelques milliers d'années. Cet événement de Dieu, quand il a appelé Adam, il se réalise pour chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes appelés, comme Abraham, à la foi. Dieu n'est pas né juste il y a 2000 ans, en Jésus. La naissance de Jésus, c'est pour cela d'ailleurs que nous la fêtons chaque année. Elle est éternelle. Il naît aujourd'hui, si vous voulez, dans notre temps. Mais un temps qui est changé par l'éternité de Dieu. Il naît aujourd'hui du sein du Père. Dieu n'est pas mort sur la croix il y a 2000 ans. Il donne sa vie pour nous aujourd'hui. C'est pour l'éternité. Et donc tout ce que Jésus a vécu dans sa vie et qui nous est donné à nous à travers les évangiles sont des événements qui nous sanctifient et qui vont transformer notre vie. Ils vont nous aider à nous sanctifier, à nous diviniser. Alors, tout d'abord, essayons de rentrer dans ce temps de Dieu, dans cette éternité de Dieu, dans cette joie de Saint-Pierre. Rabbi, il est bon que nous soyons ici. C'est le temps du carême. C'est ce temps de Dieu. Alors, il est intéressant de voir que dans la langue grecque, vous savez que les évangiles ont été écrits dans la langue grecque. Dans la langue grecque, il y a plusieurs mots pour dire le mot « temps ». Il y a le mot « chronos », qui est le temps physique, c'est notre histoire. Et il y a le mot « kairos ». Le mot « kairos » qui veut dire, il est assez difficile à traduire, c'est le temps de Dieu. C'est l'événement de Dieu. Quand Dieu rentre dans l'histoire humaine, eh bien, ce moment précis, c'est ce qu'on appelle le kairos. Je fais l'expérience de l'éternité de Dieu. Ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, que tous les événements de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament sont éternels, sont pour nous, pour chacun de nous, à chaque moment de l'histoire. Et ces événements nous conduisent à travers le chronos, à travers le temps de l'histoire, vers une plénitude. La plénitude de la rencontre ultime avec le mystère de Dieu dans la venue de Jésus dans la gloire. Toute l'histoire humaine, elle est tendue vers cette venue du Christ dans la gloire. Vous voyez, c'est très différent par rapport à d'autres conceptions de l'histoire, qui sont des conceptions païennes, en général, qui disent que l'histoire, elle est cyclique. Dans l'hindouisme, par exemple. Voilà. Non, pour nous, les chrétiens, l'histoire, elle a un commencement, elle a un but, une finalité, et elle a un nouveau sens, qui n'est pas le sens des événements humains qui viennent une après les autres, mais qui est le sens donné par le mystère de Dieu, qui intervient à travers ce kairos, cet événement de Dieu dans l'histoire. C'est pourquoi l'Église, spécialement lors du temps liturgique, du carême, redit et revit tous ces grands événements de l'histoire du salut dans l'aujourd'hui de sa liturgie. Alors, l'Esprit Saint accomplit dans l'économie sacramentelle, c'est-à-dire dans la liturgie, quand on parle de l'économie de l'Église ou l'économie sacramentelle, ça n'a rien à voir avec les finances. Économie, c'est-à-dire qu'il y a un ordre. Et donc, dans l'ordre de la liturgie, de la messe, des sacrements, par exemple la confession, l'Église, l'Esprit Saint accomplit les figures de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Puisque l'Église du Christ était admirablement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, la liturgie de l'Église garde comme une partie intégrante et irremplaçable, en les faisant siens, des éléments du culte de l'Ancienne Alliance. D'abord et en premier lieu, la lecture de l'Ancien Testament. Nous faisons mémoire de justement les événements de Dieu. Et nous allons en parler tout à l'heure, tout de suite, des événements qui touchent le nombre 40. Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais Moïse est resté sur le mont Sinaï 40 jours et 40 nuits. Le peuple d'Israël, vous le savez certainement, il est resté dans le désert 40 années. Les gens de Ninive ont fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Ce nombre 40 revient comme un symbole tout au long de l'Ancien Testament. Alors, donc je disais là, d'abord la lecture de l'Ancien Testament, la prière des psaumes et surtout la mémoire des événements survenus avec la venue du Christ, ce qu'on appelle les événements sauveurs. Alors, c'est ça qui est important pour nous à comprendre. Chaque année, dans la liturgie de l'Église, nous allons revivre ces événements de Dieu qui s'accomplissent dans le mystère du Christ. Et donc, nous mettons nos pas dans les pas du Christ. Et nous allons vivre, depuis sa naissance, chaque moment de sa vie. Et chaque moment de la vie du Christ est comme un accomplissement de toutes les prophéties dans l'Ancien Testament, de tous les événements que Dieu a faits dans l'Ancien Testament et qui sont des moments de grâce aussi pour chacun de nous. Alors, prenons l'événement de quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Dans l'Exode, chapitre 24, on lit ceci. « Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là, pour que je te donne les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. » Moïse monta sur la montagne. Alors la nuée couvrit la montagne, la gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Il appela Moïse le 7e jour du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël sous l'aspect d'un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée et il monta sur la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alors, chers frères et sœurs, vous imaginez bien que ce morceau de l'Écriture était connu par saint Pierre, saint Jacques et saint Jean, quand ils sont montés eux aussi avec Jésus sur la montagne, quand ils ont vu la gloire de Dieu descendre, quand ils ont vu Moïse et Élie s'entretenir avec Jésus. Vous voyez, il y a comme un va-et-vient, comme un éclaircissement réciproque entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et là, pour nous, cet événement nous éclaire sur le sens de ces 40 jours que Dieu nous donne à vivre par la grâce. Pour entendre la volonté de Dieu et s'imprégner de ses paroles, il faut du temps, même pour Moïse. 40 jours et 40 nuits deviennent ainsi symboliquement le temps nécessaire pour une véritable rencontre avec Dieu. Il est intéressant qu'à la suite de cet épisode, Moïse redescend dans la montagne. Comme il s'approchait du camp, nous dit l'Écriture, dans Exode 32, « Il vit le veau d'or et les danses du peuple élu autour du veau d'or. » Alors Moïse s'enflamma de colère. De ses mains, il jeta les tables et les brisa au bas de la montagne. Tout est à refaire. À nouveau, Moïse remonte sur la montagne. Et le Seigneur lui dit, « Inscris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que je conclus avec toi une alliance, ainsi qu'avec Israël. » Il fut donc là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, il ne but pas d'eau. Et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Le Deutéronome, dans chapitre 9, va reprendre cet épisode en le mettant dans la bouche de Moïse, y ajoutant l'idée que pour Moïse, les 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire, sont aussi une forme d'intercession pour les péchés que le peuple élu avait fait. Justement, la construction de cette idole, le veau d'or. Intercession, nous dit le Deutéronome, efficace aux yeux de Dieu. Voilà l'alliance que Dieu fait avec Moïse et avec le peuple à travers ses 10 paroles, les 10 commandements. Eh bien, c'est la même chose que saint Pierre a vécu sur le mont lors de la transfiguration. En écoutant, en entendant la parole que Dieu lui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Pendant ce temps du carême, Dieu le Père va dire au cœur de chaque chrétien, en montrant Jésus dans notre vie, dans notre humanité, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est en lui que j'ai trouvé ma joie. » Le carême est donc une préparation du cœur de l'homme à travers la prière, à travers l'aumône, à travers le jeûne. Une préparation à la résurrection du Christ. Alors, au début de l'Église, jusqu'au IVe siècle, les chrétiens vivaient dans une attente imminente de la venue du Christ. Ils vivaient vraiment de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort, comme une gloire présente à chaque moment de notre vie. Et c'est à partir du IVe siècle que la pratique du jeûne et de l'abstinence s'est fait de plus en plus présente dans l'Église. Parce que l'Église a compris qu'il faut du temps. Il faut du temps pour le cœur de l'homme, pour l'humanité, à comprendre, à s'éveiller à cette présence de Dieu dans notre vie. Dieu est présent, Dieu agit dans notre vie, mais nous en sommes tellement loin, tellement facilement nous sommes pris par la danse, par les veaux d'or que nous construisons dans notre vie, et nous oublions la présence de Dieu. Et de cette présence naît cette joie que Pierre a expérimentée le jour de la transfiguration. Alors, en proposant à ses fidèles l'exemple du Christ retiré dans le désert, comme dans l'Évangile, au début de sa vie publique, Jésus est pris par l'Esprit Saint et amené au désert. Eh bien, l'Église va préparer le cœur des croyants pour les solennités pascales, grâce à la purification du cœur, à la parfaite pratique de la vie chrétienne et à l'attitude de pénitence. Ce temps, donc, c'est un temps de Dieu, un temps de joie, mais aussi un temps d'épreuve, un temps de conversion. C'est le kairos que Dieu nous donne à chacun de nous. Le moment favorable pour chacun de nous de rencontrer le Christ ressuscité dans notre vie. Il n'y a que le Christ ressuscité qui peut donner une lumière nouvelle à notre histoire personnelle et communautaire. Nous pensons, et il y en a beaucoup de gens qui pensent cela, que en fait, non, c'est grâce à nos efforts, à nos pénitences, que nous allons peut-être, quelque part, humblement, faire l'expérience de Dieu. Et c'est exactement l'inverse. C'est parce que Dieu m'aime, parce que Dieu le Père me dit dans le creux de l'oreille, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Parce que Jésus est ressuscité et il déverse sur moi la grâce de sa gloire, que je peux être capable, petit à petit, de m'éveiller à cette présence de Dieu, de trouver le sens de ma vie, de mon histoire personnelle, à travers ce temps que Dieu me donne liturgiquement, qui est le temps du carême. Le carême m'invite à prendre conscience de cela. Dieu est actuel, est présent partout. Nous voulons nous échapper des exigences qui nous aideraient de rentrer dans cette présence de Dieu. Alors, écoutons l'Esprit Saint qui m'appelle aujourd'hui à rentrer dans l'éternité de Dieu, dans cette présence de Dieu. Dans l'Écriture, il est dit que cherchez le royaume de Dieu et le reste te sera donné. Le royaume de Dieu dans ma vie, cette présence du Christ, roi de mon cœur, de mon corps, de mon imaginaire, de mon boulot, de mon histoire. Et je vais retrouver une lumière nouvelle, une lumière qui est pleine de joie, une lumière qui libère mon cœur des obscurcissements du péché, des lassitudes de cette vie qui est trop dure, trop souvent, des paresses qui m'empêchent de courir vers Dieu. Alors, nous avons un petit peu moins maintenant, de 40 jours pour utiliser ce temps pour rentrer dans la joie de Dieu, pour nous approcher du Dieu de Moïse, du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jésus. Humblement, mes chers frères et sœurs, nous allons supplier le don de l'Esprit Saint les uns pour les autres, avec beaucoup de gratitude pour l'amour de Dieu pour chacun de nous. Alors, il est important de retrouver le sens du sacré dans notre vie. Il est important de retrouver ce sens du sacré comme saint Pierre l'a retrouvé le jour de la transfiguration. Il est temps de nous laisser diviniser, disaient les pères de l'Église, par l'Esprit Saint, de croire que l'amour de Dieu est beaucoup plus fort que toutes nos tendances égoïstes, que nos vices, que la méchanceté des gens. Et nous y sommes. Le temps du carême nous est donné par l'Église pour cela. Ne vous étonnez pas, il est beaucoup plus facile, si j'ose dire sensiblement, de vivre le temps du carême que le temps de Pâques. Puisque dans le temps du carême, Dieu, miséricordieusement, touche par sa grâce aussi notre sensibilité. Et il nous apprend avec beaucoup de lumière à avancer sur le chemin de la sainteté. Alors, il y a une grâce de lumière, il y a une grâce de joie, il y a une grâce de liberté intérieure. Certes, nous pouvons reprocher à saint Pierre de ne pas avoir été fidèle à cette joie qu'il a vécue lors de la transfiguration. Mais qui sommes-nous pour le juger? Nous qui avons renié Jésus tellement de fois aussi dans notre vie. Et pourtant, la rencontre que Pierre a faite le jour de la transfiguration nous est donnée à nous aussi, en début de ce carême. Nous n'allons pas vivre ce carême avec un air triste, avec une tension dans notre cœur. Mon Dieu, est-ce que je vais arriver à réussir mon carême, à réussir mes bonnes résolutions de carême? Vous allez voir hein, qu'on ne réussit rien du tout. On prend des résolutions au début du carême et puis on a du mal à les tenir. On a du mal à les tenir parce que nous nous regardons trop, sans regarder la gloire de Dieu dans notre vie, sans lâcher prise, comme disent certains. Alors, il faut monter sur une autre montagne. Il faut construire vite une tente ou trois tentes chez nous. Si vous êtes à plusieurs dans votre famille, il faut construire une tente pour chacun. C'est-à-dire un espace sacré, un temps sacré, où vous pouvez faire l'expérience de la présence de Dieu dans notre vie. Une présence qui donne du sens à notre vie.